Il s'agit de la stratégie de Dieu pour faire face à l'adversité. Et je sais que les uns les autres, dans des circonstances plus ou moins différentes, on a besoin d'être rassurés. On a vu le témoignage de Rachel tout à l'heure. On a entendu qu'elle avait besoin, quelque part, de discerner qu'est-ce que le Seigneur attendait dans cette situation précise. Et il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de gens, nous, on a besoin de savoir, alors, qu'est-ce qu'il faut que je vote, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, de quoi sera fait demain, est-ce qu'aujourd'hui ça va changer. Et j'aimerais juste reprendre un passage dans le livre des Actes, où on voit que les grands apôtres, comme l'apôtre Paul, eh bien, ils ont vécu des choses où ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu. Et j'ai pris un passage dans un contexte un peu particulier où Paul part avec toute une équipe pour faire de l'évangélisation. Et puis, ils veulent passer en Asie. Et puis là, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit leur dit non. Alors déjà, quand on part pour faire de l'évangélisation, et puis qu'on reçoit « non, c'est pas là », on se dit « mais est-ce que ça, c'est pas une ruse du diable ? Est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que j'ai bien compris ? D'où ça vient ce nom ?» etc. Et comme Dieu est un Dieu de grâce, pour rassurer Paul, et on a besoin d'être rassuré, eh bien, la nuit, Paul fait un songe et il voit un homme habillé dans une certaine manière, et il reconnaît que c'est un Macédonien. Et le Macédonien, dans son rêve, lui dit « Viens à notre secours ». Et là, Paul, il passe donc en Macédoine et il commence avec son équipe à faire de l'évangélisation. Et ça se passe plutôt pas mal au début, jusqu'au moment où il chasse un démon d'une personne. Et ce démon, quelque part, il provoquait du gain pour... parce que la personne en question était une esclave, et parce qu'elle était possédée par un esprit de divination, les maîtres, eh bien, ils engrangeaient beaucoup d'argent. Et là, Paul et son compagnon Silas, ils sont pris, ils sont accusés, et ils sont jetés en prison. Et non seulement ils sont jetés en prison sans jugement, mais en plus, ils sont battus. Et c'est ce qu'on va dire maintenant dans Actes 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Amen. Nous voyons dans ce texte plusieurs éléments qui vont nous permettre de progresser dans notre vie avec le Seigneur. Alors, la première constatation, c'est que Paul et Silas, ils étaient loin de Dieu, ils marchaient dans l'obéissance et ils étaient dans les temps et dans les plans de Dieu. Ils étaient, comme dirait Teferi, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et il accomplissait pleinement la volonté de Dieu. Ils avaient entendu le Saint-Esprit qui les dirigeait, non pas l'Asie, mais la Macédoine. Vas-y. Ils avaient obéi et ils évangélisaient. Ils étaient pleinement dans ces moments d'onction. Et pourtant, ils rencontrent une très forte opposition. Ils rencontrent une épreuve, des épreuves. Ils rencontrent la persécution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont, un, accusés faussement, condamnés, mis en prison, ils sont battus, personne ne connaît leur situation, ils sont comme laissés à eux-mêmes, abandonnés, isolés, souffrants, tout espoir de sortie est néant, annihilé. Rien ne permet de penser que leur sort va s'arranger, ils sont mal en point. Et c'est la conclusion, c'est pas parce qu'on marche dans l'obéissance et la bénédiction qu'il ne va rien nous arriver de nuisible. Dans l'Épître à Timothée, Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. » Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous préparer à une persécution, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le chemin que Dieu montre à Paul et Silas pour traverser la persécution, pour traverser l'épreuve, pour surmonter des choses. Et il y a un verset qui nous met en garde, il y a plusieurs versets qui nous mettent en garde et que vous pouvez prendre en note, c'est 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 11. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors j'aimerais qu'on dise, on se tourne vers le voisin et qu'on lui dise, si tu es persécuté, t'inquiète pas, Dieu va te perfectionner. Tu te tournes vers le voisin et tu lui dis, Dieu va te perfectionner. Il va t'affermir. Il va t'affermir. Il va te fortifier. Il va te fortifier. Il va te rendre inébranlable. Il va te rendre inébranlable. Et ça ne vient pas de toi, ça vient de sa puissance, de sa gloire. Amen. Il y a un autre verset que j'aimerais vous donner. C'est dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 12. Et ça, j'aime beaucoup ce verset, c'est un de mes préférés. Parce que Dieu, il nous voit. Il n'y a rien qui est caché. Et ce verset dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. » Tu te tournes vers le voisin, la voisine, les yeux de l'Éternel sont sur toi, parce que tu es juste par le sang de Jésus. Tu vas dire à ta voisine, ton voisin, les oreilles de l'Éternel sont attentives à tes prières. Il entend tes prières. Amen. Alors, qu'est-ce que Paul et Barnabas y font dans leur prison, roués de coups? Ils ont les sceptres aux pieds, c'est-à-dire leurs deux pieds étaient prisonniers dans une espèce de d'étau en bois. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils avaient mal partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu dire, « Ah, Barnabas, non, Silas, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, on aurait dû passer en Asie. » T'as mal compris ce que le Seigneur y disait. Ben non, c'est toi qui as eu le rêve du Macédonien. C'est toi qui nous a induit en erreur. Peut-être qu'on n'a rien compris à ce que le Seigneur voulait. Or, pourquoi on est là? Et puis ils auraient pu se lamenter. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils perçoivent, ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ressentent, ils décident ensemble quoi? Ils décident de se confier en Dieu. Et aujourd'hui, si nous, on doit décider quelque chose dans les votes, c'est de nous confier en Dieu. Il règne, il est souverain, il tient la France dans sa main, c'est lui qui est le roi. Quoi qu'il arrive, il tient notre passé, notre aujourd'hui et notre demain. Et on est en sécurité, mes amis. C'est Dieu qui règne. La terre et les cieux sont quoi? Le marchepied du Seigneur. Il tient toutes ces choses-là. Et Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident ensemble de se confier à Dieu. Et il y a une unité de cœur avec Dieu et il y a une unité de cœur entre eux. Amen. Et Paul et Silas, ils se tournent vers eux, l'un vers l'autre. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient faire que ça. Les pauvres, ils étaient attachés, enchaînés. Et Paul a dû dire à Silas, « T'es pas seul, Silas, je suis là. » Alors tu dis à ton frère, « T'es pas seul, mon frère, je suis là. Je te soutiens, je te soutiens. » Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Amen. Et ils tournent leur cœur vers Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se lamenter, ils chantent les louanges du Seigneur. Ils chantent des louanges. Vous savez, ils avaient compris quelque chose. C'est que s'ils restaient unis ensemble, tournés vers le Seigneur, le diable était tenu en échec. Résistez au découragement, il fuira loin de vous. Résistez à la maladie, elle fuira loin de vous. Résistez aux œuvres des ténèbres, ils fuiront loin de vous. Même si ces œuvres de ténèbres, elles sont là, présentes. Quelque part, ils étaient enchaînés au fond d'une geôle, ça ne devait pas sentir bon, ils avaient mal partout, ils saignaient, ils avaient pris des coups, ils ont résisté. Et qu'est-ce qui se passe là? Le but du diable, on voit, c'est de déstabiliser les disciples par la souffrance, l'adversité, l'isolement, et c'est de les centrer non pas sur Dieu, mais c'est de les centrer sur la douleur, c'est de les centrer sur les difficultés, c'est de les centrer sur eux-mêmes. « Ah, malheureux que je suis, j'ai bien mal. » Eh bien, oh, ils ont refusé ça. Ils ont dit... Oui, Paul et Silas, on va louer le Seigneur, on va prier, on va faire le culte à Dieu, on va faire le culte à Dieu. Et ta maison, ton corps, c'est quoi? C'est le temple du... Et qu'est-ce qu'on fait dans le temple? On fait le culte au Seigneur. T'es malade, profite, fais le culte au Seigneur. Et la maladie, elle va entendre qu'il y a un culte à Dieu et le diable va commencer à perdre son pouvoir, son autorité, parce que tu laisses l'autorité de Dieu rentrer dans toi. Il faut vraiment qu'on ait ce réflexe de faire le culte au Seigneur tous les jours dans notre maison. Parce que quand on fait le culte, eh bien, on se centre sur Jésus. On ne se centre pas sur l'événement, on se centre sur celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui tient ton passé, ton présent et ton avenir dans sa main. Et on lui donne la meilleure chose. On n'est pas centré sur l'échec et la peur, mais on est centré sur le Roi des Rois. Alors le diable, il a différentes stratégies. l'échec, la peur, faire douter de la puissance de Dieu. Mais Paul et Silas, ils avaient appris quelque chose là dans cette histoire. Ils avaient appris à écouter ce que l'Esprit leur disait. Ils n'ont pas vu Jésus. Il n'y a pas une voix qui est venue leur parler, mais l'intuition intérieure du Saint-Esprit en eux, ils s'étaient rendus sensibles à l'intuition intérieure du Saint-Esprit qui habite en eux. Et ils avaient appris à discerner dans le temps, apprendre à écouter. Quand ils voulaient partir en Asie, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Ils sentaient que ce n'était pas le plan exact du Seigneur. Alors ils ont arrêté, ils ont écouté. Et puis le Saint-Esprit a mis son doigt, a dit « Non, 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 c'est pas l'Asie, je veux pas que vous alliez là-bas. » Alors Paul, il s'est mis à prier, il a dit « Seigneur, je comprends pas très bien où c'est que tu veux qu'on aille. Donc si c'est pas l'Asie alors qu'on avait prévu l'Asie, qu'est-ce que c'est ?» Et Dieu, dans sa bonté, envoie à Paul quoi ? Un songe. Dieu veut vous envoyer des songes. « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Amen. Donc, toute chair, est-ce que tu es accepté ? Tu dis, non, non, moi, je ne suis pas digne. Ah oui, bah, Dieu, entre ta dignité et tout ça, il ne sait plus où mettre la tête. Hein. Sur toute chair, c'est-à-dire sur toi aussi, il veut répandre son esprit et il veut te rendre sensible à son esprit. Il veut te parler. Et ils avaient appris à écouter. Et Paul et Silas ont écouté ce que le Saint-Esprit voulait dire. Et de la même manière, ben, des fois, le diable, il ne peut pas nous troubler par des événements. On est devenus des vrais durs à cuire. Alors, il nous envoie le calme plat. Vous savez, les navigateurs dans le temps avec la voile, quand il n'y avait plus de vent, aïe, 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 ça pouvait durer 20 jours, 25 jours. Les grands navigateurs là, qu'on voit faire le transat, ils ont des appareils extraordinaires, météo, le vent comme ci, comme ça. Ah, il y a une zone de calme plat là-bas, je ne vais pas mettre le bateau là parce que je ne vais pas avancer. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas. Et si tu étais dans une zone de calme plat, ben, tu ne pouvais rien faire. Et des fois, dans nos vies, le diable, il fait calme plat. Il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, oh, je m'ennuie, Dieu, sers-toi de moi. Et puis, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est encore des fois des stratégies de l'ennemi pour nous troubler, pour nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas à faire. Regardez David. Quand il n'est pas parti en campagne avec ses armées, il est resté dans son palais, il se promenait sur les toits, et puis d'un seul coup, il voit une belle jeune femme au loin, et son regard est attiré vers elle, et ça l'a conduit où ? À l'adultère, au crime, au mensonge, à la dissimulation. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une période de calme plat, où il avait laissé ses pensées le conduire plutôt que de chercher la pensée de Dieu. Enfin, ce n'est pas le sujet du message complètement là. Ce que Dieu nous demande, c'est de passer la vitesse supérieure en nous mettant à l'action. Parce que Paul et Silas, ils ne réagissent pas, ils agissent. Il y a une différence. Ils agissent dans l'esprit contraire de ce qui se passe pour eux. Et agir dans l'esprit contraire, ce n'est pas forcément prendre le contre-pied de ce qu'on vit, mais c'est écouter ce que le Seigneur attend de nous. C'est écouter ce que le Seigneur attend de nous. Le témoignage de Rachel tout à l'heure, eh bien, c'était exactement ça. Elle n'a pas réagi en fonction de ce qu'elle avait envie, elle a écouté ce que le Seigneur attendait d'elle. Et quand elle a entendu la voix du Seigneur et qu'elle a renoncé quelque part à une place élevée, une place qu'elle avait envie de vivre, eh bien la paix de Dieu est venue l'habiter. Et ça, c'est le signe de l'attestation de la présence de Dieu. C'est l'attestation intérieure. Ce n'est pas forcément une paix, une sensibilité, « Oh tiens, je me sens bien », tout ça. C'est plus profond que ça. On sait qu'on sait que c'est le plan de Dieu. Et là, on est tranquille. Il peut arriver n'importe quoi. Le Saint-Esprit a attesté. Et ils ont pas agi malgré les circonstances, mais ils ont agi au-dessus des circonstances. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la hauteur, ils se sont élevés au travers de leur culte, au travers de la prière, ils ont été touchés des cieux et ils ont été au-dessus de l'épreuve pour entendre ce que le Seigneur voulait pour eux. On retrouve cette attitude dans Actes, au chapitre 5, versets 40 à 42. C'est l'histoire des apôtres qui prêchent, et puis ils sont tous attrapés, ils sont tous enfermés. Et c'est dit, « Ayant appelé les apôtres, donc c'était les religieux, ils les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, donc c'était le conseil religieux. Et qu'est-ce qui est dit ? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Donc au lieu d'être affligés, tristes, ils sont joyeux. Amen. C'est la joie qui t'attend, ce n'est pas la souffrance. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite ? C'est écrit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, on leur interdit de parler au nom de Jésus, on les bat, et eux, au lieu de se lamenter, ils sont joyeux, et au lieu de se taire, ils continuent d'annoncer non seulement un petit peu, mais chaque jour, partout où ils sont, le nom de Jésus, le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Ils agissent dans l'esprit contraire de ce qu'ils viennent de subir dans l'adversité. Et si le diable a essayé de les intimider, eh bien, ça les a poussés à parler, à être joyeux, à redoubler d'enseignement. Cela, des exemples comme ça, il y en a plein dans la Bible. Dieu veut nous apprendre à marcher dans l'esprit contraire de ce que le diable, de l'opposition du diable. Je vais vous lire un verset dans Éphésiens 5, des versets 15 à 21. Et c'est un verset qu'on pourrait prendre pour la France aujourd'hui. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ou autrement dit, quels sont les plans de Dieu pour vous aujourd'hui. Comprenez quels sont les plans de Dieu pour vous aujourd'hui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Tu tournes vers ton voisin, ta voisine encore, puis tu lui dis « Comprends ce que Dieu il attend de toi. » Amen. Maintenant, on va le dire autrement. On va dire « Tu es capable de comprendre ce que Dieu attend de toi. » Amen. Alors, est-ce que la louange, c'est une potion magique face à l'adversité et à la persécution ? Je vous rassure tout de suite, sûrement pas. Ce qui est la potion magique, c'est d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est de comprendre ce que le Seigneur veut déposer dans nos vies. C'est de marcher dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, qu'est-ce qui est demandé pour qu'on comprenne ces choses, pour qu'on entende la voix du Seigneur ? Ben, c'est d'être en unité de cœur avec Jésus. S'il y a quelque chose qui te sépare de Jésus, tu vas le mettre tout de suite à sa bonne place, au pied de la croix. les actes, les ordonnances qui sont écrits contre toi, qui te condamnent, qui t'amènent dans la culpabilité, dans le remords, les péchés, tu les livres en spectacle à la croix. Tu demandes pardon, tu te mets en ordre devant le Seigneur. Il y a l'unité de cœur entre toi et Jésus et entre toi et les frères. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il trouve le terrain pour envoyer les lettres de missive pour te donner la bonne marche à suivre. On laisse la place au Saint-Esprit parce que Dieu, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de
sagesse.
Je vais vous lire juste Ésaïe 11. Il y a les attributs du Saint-Esprit. Alors, on va répéter ensemble. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, comment il est décrit? Alors, je vous lis, vous répétez. Esprit de sagesse et d'intelligence.
Esprit de sagesse et d'intelligence.
Ça veut dire que tu peux être sage et intelligent selon le cœur de Dieu. Amen. Esprit de conseil et de force. Ça veut dire que tu as le conseil de Dieu et que tu as la force de Dieu en toi. Amen. C'est tellement important. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et je vous lis la suite du verset. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'appurance, il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité, la ceinture de ses reins. Alors pourquoi on dit tout ça aujourd'hui? C'est pour vous dire que le Saint-Esprit qui habite en vous, il est puissant, il est fort, il vous rend intelligent, il vous rend sage, il vous ceint de force. Et il faut être attentif à le laisser libre. Il faut chercher la présence du Père, entendre ce qu'il veut que nous fassions dans les situations critiques. Comment nous devons agir? Et non pas réagir. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le doute, on doit prendre de la hauteur. C'est-à-dire aller toucher le trône de Dieu pour recevoir de lui. On ne peut pas traverser l'épreuve et en sentir indemne, mais on peut monter jusqu'au trône de Dieu. Et là, au trône de Dieu, on reçoit la sagesse, on reçoit le conseil, on reçoit la force, on reçoit la consolation. Amen. C'est ça notre démarche. Traverser l'épreuve, trop dur. Je monte en hauteur dans la prière. Et là, je reçois le conseil, je reçois la sagesse, je reçois l'intelligence, je reçois la force et je peux avancer. Parce que je marche non plus selon mes forces, mais je marche selon le conseil de Dieu. Et c'est ça qui est important. Qu'on comprenne. Et Paul et Silas, ils ont compris ça et ils se sont mis en action, pas en réaction, mais en action. Et ils commencent dans la prison, tout de suite, ils font culte à Dieu. Culte à Dieu parce qu'ils prennent de la hauteur. Ils se mettent en communion ensemble et ils avancent. Et l'attitude de leur cœur change. Ils ne murmurent pas contre les persécuteurs. Ils ne murmurent pas contre les autres prisonniers, mais ils apportent la parole de témoignage, le témoignage de la vie par la paix, la joie qu'ils ont face à ces situations d'adversité. Et alors, quelle est la réponse du Seigneur? Eh bien, il y a un tremblement de terre. Et le tremblement de terre fait ouvrir les portes des prisons, fait tomber les chaînes des prisonniers. Qu'est-ce que c'est ce tremblement de terre? C'est la réponse de l'ébranlement des puissances des ténèbres qui sont sur la terre et qui entourent Paul et Silas. Dieu entend leur prière. Dieu voit Paul et Silas. Ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et Paul et Silas ont une attitude juste, ils sont montés dans les hauteurs. Et là, Dieu exerce son autorité. Il ébranle les puissances des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe ? Les portes des prisons s'ouvrent. Quand tu crois que le terrain il est bouché, que tu peux aller nulle part, il y a toujours une route royale que Dieu y trace devant toi. Tu le proclames pour ta vie. Il y a toujours une route royale que Dieu trace devant moi. Il y a toujours une route royale que Dieu trace devant moi. Amen. Les chaînes tombent. Il n'y a rien qui peut me tenir lié. Jésus m'a délié de toutes les chaînes. Et chose étonnante, je vais vous dire, mes amis, c'est que non seulement les chaînes de Paul et Silas sont tombées, mais toutes les chaînes de tous les prisonniers sont tombées dans la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous dire que les prisonniers, ils ont dû se regarder avec des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces hommes? Et à ce moment-là, l'Évangile, les Actes des Apôtres n'en parlent pas, mais Dieu était en train de tracer une route nouvelle pour tous ces prisonniers, tous ces brigands, tous ces voleurs, tous ces tueurs. Dieu ouvrait une porte aussi pour eux. Dieu faisait tomber leurs chaînes, ils étaient plus liés. Il y avait un tel ébranlement des puissances spirituelles, il y avait une puissance de réveil qui est tombée sur cette prison. Et c'est tellement vrai. Pourquoi ? La preuve, aucun de ces hommes n'a fui. Aucun. Ils étaient tous saisis par la présence de Dieu. Ils sont tous restés dans la prison. Et s'ils n'étaient pas sous l'influence de Dieu à ce moment-là, ils seraient carapatés, vite fait, bien fait. On profite de la confusion, tremblement de terre, je m'en vais. Ils auraient presque dit, Dieu me donne une chance, je me sauve. Et au lieu de ça, ils sont tous restés là. La preuve en est, c'est quand le geôlier arrive, ils disent, ils ont tous fui. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est me suicider, parce que de toute manière, voilà, j'ai rien d'autre, je vais être trucidé par les autorités romaines. Et Paul, il exerce le ministère prophétique. Étonnant, il est battu, il exerce le ministère prophétique. Il ne te tue pas, on est tous là. Comment savait-il que le geôlier allait se tuer? Il avait sorti son épée, c'est vrai, mais on n'y voyait que goutte dans la prison. Puisqu'il est dit, du geôlier, à ce moment-là, quand il a entendu la voix de Paul, il dit « Apportez de la lumière, que je vois s'ils sont tous là. » Et effectivement, on apporte de la lumière et ils sont tous là. C'est même les païens qui vont demander la lumière. C'est étonnant, ce texte, il est extrêmement prophétique. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la lumière vient, aucun ne fuit encore. Aucun ne fuit. Ils restent tous ensemble. Et le geôlier, au lieu d'être celui qui va enfermer, il se met aux pieds de Paul et Silas. Et il dit, mais Seigneur, comment je peux être sauvé? Et aujourd'hui, dans les situations qu'on est, Paul et Silas, ils étaient écrasés entre le pouvoir romain judiciaire et le pouvoir religieux qui les persécutait, qui les a fait mettre en prison. Ils étaient encadrés dans ces deux pouvoirs et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi le troisième pouvoir, c'est-à-dire celui du ciel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit choisir aussi, mes amis, le pouvoir qui est dans les cieux. Parce que Dieu va conduire, Dieu va libérer, Dieu va ouvrir une route. Quoi qu'il arrive, il nous faut prendre de la hauteur, il nous faut prier, il nous faut louer, il nous faut adorer, il nous faut rendre culte, il nous faut entendre ce que l'Esprit nous dit. Alors je vais m'arrêter là. Le geôlier, qu'est-ce qu'il fait? Il devient soignant, il exerce l'hospitalité. C'est étonnant pour un geôlier. Et on va prendre simplement le verset de Pierre qu'on a confessé tout à l'heure sur nous, où il est dit que Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui agit en nous et qui le fait par sa force toute puissante. Mais il ne peut le faire que si nous maintenons notre relation avec lui. Rendons-lui donc un culte qui lui est juste. Donc on le dit ensemble, on se tourne vers son voisin. Il te perfectionnera. Il t'affermira. Il te fortifiera. Il te rendra inébranlable. À Dieu soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.